France Culture.
Je voulais toujours noter ce qui se passait sur le moment, pour que ça dure. Il y avait cet élément-là que le poète, d'ailleurs, parle très souvent. Le poète dit qu'il veut conserver les moments, les beaux moments.
On rappelle déjà qu'Anaïs Nin est née le 21 février 1903. Et quand elle écrit son journal, c'est à bord d'un bateau qui la conduit de Barcelone à New York. Et c'est en 1914. Donc elle a simplement 11 ans.
Et après, j'avais toujours le sens du romancé. Enfin, si je prenais une péniche, je vivais la vie d'une péniche. Je la racontais. Si ma vie n'était pas heureuse, de toute façon, je la considérais comme un roman. C'était une façon de me consoler, de faire que tout ce qui m'arrivait était intéressant, quand même.
Anaïs Nin, écrire sa vie comme un mythe. Un documentaire de Manon Delasselle et Anne Fleury.
Jusqu'à présent, elle a vécu avec son père, qui était un pianiste international assez célèbre de son temps. Ils ont vécu en Europe, au gré des affectations du père. Et là, en 14, le couple des parents d'Anaïs Nin se sépare, et la mère d'Anaïs décide de repartir à New York, où elle attend une partie de sa famille. Et là, elle est séparée de son père, et ce journal, elle va le lui dédier. C'est le geste d'une fille qui veut garder le lien entre ce père qu'elle adore, qui lui l'aimait d'un amour trouble, mais néanmoins suffisamment profond et puissant pour que cet enfant décide de lui garder son amour, en tout cas. Et alors, un petit détail qui est intéressant, sur la première page du journal, il y a la photo de son père.
C'était aussi le livre de bord, un peu. Je me rendais compte de ma direction.
Anaïs Nin,
si je me développais,
1975,
si j'étais trop enfermée,
un livre
si j'étais
des
trop
voix.
Solitaire, le contact avec le monde, ça servait toutes sortes de fins. Au commencement, petite fille, je faisais de la rêve éveillé. J'inventais les choses que je voulais faire, les pays que je voulais voir. Alors à ce moment-là, les faits n'étaient pas réels. Mais l'imagination me servait de connaître ce que je voulais qu'il se passe.
Elisabeth Barillet, biographe d'Anaïs Nin.
Alors quand elle arrive à New York, puis après ils déménageront à Richmond, donc Anaïs, sa mère et ses deux frères à l'époque, la mère va louer des chambres, donc vivre d'une façon assez modeste, et elle va lire alors beaucoup des moralistes, et c'est ça qui est absolument intéressant, qui en fait une personne à part, c'est qu'à 13, 14 ans, elle va lire Marc Aurèle, elle va lire Rousseau, elle va lire Thoreau, évidemment, Emerson. Et puis elle va lire aussi des poètes romantiques, beaucoup de poètes anglais, évidemment la littérature française puisqu'elle est allée un petit peu à l'école en France. Donc cette enfant, elle est déjà absolument érudite et a des choix très très marqués. Hein. Elle aime vraiment la littérature. Elle aime la pensée écrite. Hein. C'est pas forcément les histoires, c'est vraiment la pensée écrite. Et ça, c'est assez remarquable. Elle va aussi étudier des diaristes. Elle va étudier de près Amiel. Elle va étudier Marie Baskitchev pour voir un peu comment ils font. Je pense qu'elle comprend très tôt, avant qu'Henri Miller lui dise que son journal c'est son chef-d'œuvre, mais quand même d'une façon intuitive, elle comprend très tôt que ce journal va être la pierre angulaire de sa vie.
Dans les années, disons 1850-1880, le journal est un instrument éducatif, mais un instrument éducatif qui peut être donc à la disposition des mères, des précepteurs ou préceptrices.
Françoise Simonet Tenant, professeure de littérature.
Donc on fait écrire un journal, mais c'est aussi un moyen de contrôle sur le plan moral et religieux. Donc il y a quelque chose quand même du corset spirituel. Et arrive Marie Bashkirtseff, qui est totalement subversive et d'une grande impertinence dans son journal, et donc qui a de l'humour aussi. Donc je pense que pour Anaïs Nin, comme pour beaucoup d'autres, c'est un modèle d'émancipation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, le journal ne sera plus très très bien vu par les éducatrices, disons catholiques. Il y a des traités d'éducation où on met en garde les mères contre ce que peut avoir de pernicieux le journal. Qu'il y aurait quelque chose un peu de pathologique, de névrotique, de narcissique. On trouve toujours, l'accusation de narcissisme est toujours tout de même liée au journal.
3 décembre 1914, Anaïs Nin a 11 ans.
Ma distraction préférée est de causer avec mon journal. Et c'est cela que je viens faire. Maman n'aime pas beaucoup. Elle dit que jamais je ne gagnerai de l'argent. Mais moi, mon idée n'est pas de faire de l'argent, comme les Américains qui boivent de l'argent, qui le mangent. J'aime beaucoup être seule. Pourquoi ? Ces jours-ci, j'ai écrit beaucoup d'histoires. Puis, quand je suis fatiguée, je me mets à la fenêtre qui donne sur une vilaine cour. Mais pour me consoler, je m'imagine que c'est la campagne. Les vilaines plantes sèches, je les prends pour des belles fleurs. Les vilains murs rouges, des belles grilles dorées qui séparent la campagne d'un joli château. Puis une fois là, je me mets à penser sans arrêter. Peut-être suis-je une folle. Tant pis pour moi. J'aime cette espèce de caractère et je le garderai toujours car je n'ai aucune idée de changer jusqu'à ce qu'une personne plus sensée que moi me le dise. Et encore, ce sera avec regret. Je mets fin à ma causerie par la promesse de revenir demain encore raconter mes folies.
Il se trouve que j'ai vécu à New York en même temps qu'elle. J'ai quitté New York en 73 et elle est morte en 77. Et j'avais des copines qui la connaissaient. Donc j'ai entendu parler d'elle de façon quasi directe, quoi.
Nancy Houston, écrivaine.
Je ne me suis pas vraiment intéressée de très près parce que pour moi c'était quelqu'un, oui, d'une génération pré-féministe. Et moi j'étais très très impliquée dans le mouvement des femmes, etc. Et puis petit à petit, au long des années, en fait, je me suis rendu compte que nous nous ressemblions beaucoup parce que les êtres humains vivent avec l'aide des frontières. Et Anaïs Nin, comme moi, c'est quelqu'un chez qui les frontières ont été fracassées, les frontières d'identité importantes. Donc, je parle des frontières de pays, de langue et aussi les frontières familiales. Elle a vraiment subi des abus de la part de son père. Elle a été violentée par son père. Il frappait tous ses enfants, mais elle était la seule à qui il donnait des fessées déculottées. Je partage cela aussi avec elle, d'avoir eu une enfance faite de déménagement, de déracinement. Et donc, elle avait vécu à Bruxelles, à Paris, à Arcachon, et puis à Cuba, bien sûr, New York, etc., avant l'âge de 6 ans. Et c'est très, très perturbant pour des petits êtres qui essaient de se construire et qui changent de lieu tout le temps et de langue ambiante. Je crois que le français était véritablement la langue prestigieuse pour elle parce que son père voulait qu'elle la maîtrise. Mais après, le journal est en anglais essentiellement. Elle commence véritablement à écrire à cause du départ de son père. Elle devient écrivaine dans ce manque-là, comme moi avec le départ de ma mère. Je pense qu'on s'accroche à l'écriture comme presque à un sol, le seul endroit auquel on peut appartenir, sur lequel on arrive à exister, à marcher.
Anaïs Nin a besoin de protection, elle a besoin de retrouver une forme de figure paternelle, disons. Donc Hugo lui plaît beaucoup, c'est un très beau garçon. Je pense qu'ils se rencontrent en 1921, en tout cas il se marie en 23, donc la cour, si je puis dire, n'est pas si longue pour l'époque. Hugo, c'est le fils d'une famille assez fortunée, qui était des anciens planteurs. C'est un garçon assez alors en même temps classique en apparence, qui fait des études à Columbia d'économie. Et elle sent chez lui quelque chose d'un peu excentrique qui lui plaît. D'ailleurs, Hugo Giller, tout en continuant son travail à la banque, peu à peu se tournera vers le cinéma, vers la gravure. Ce sera quelqu'un de très très créatif. Et très très vite, Anaïs Nin, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, mais je pense qu'elle était absolument craquante, comme on dirait aujourd'hui. Elle est ravissante, spirituelle et érudite. visite, d'une grande liberté déjà pour l'époque. Et Hugo promet que quand ils seront mariés, il demandera un poste à Paris. Et c'est ce qu'il va obtenir. Donc en 24, ils partent à Paris. Hugo est un cadre, on dirait un cadre supérieur de la National City Bank. Alors, elle va se couler dans une vie d'épouse parfaite, ce qu'elle n'est pas au plus profond d'elle-même. Elle va faire de son mieux pour recevoir. Il faut quand même insister sur le fait que Anaïs Nin, jusqu'à son retour aux États-Unis dans les années 40, elle a mené une double vie sociale, c'est-à-dire que une vie bourgeoise, assez ennuyeuse pour elle, et une vie plus bohème, mais qui était de l'ordre de l'intimité. Donc quand elle écrit dans son journal qu'elle vit sur une péniche et que des générations de lectrices, dont je fus, hein, quand j'avais 20 ans, quand j'ai eu Anaïs Nin, vivre sur une péniche, pour moi c'était vraiment le rêve d'une vie de bohème, c'était extraordinaire. En fait non, cette péniche c'était Hugo qui lui avait loué pour en faire son bureau. Mais elle vivait à l'époque boulevard Suchet, vous voyez, donc ça n'avait rien de... Donc elle s'ennuie un peu, mais ce qui va la tirer, si je puis dire, de son ennui, c'est la crise de 29. Il quitte le boulevard Suchet pour s'installer à Louveciennes. La mère d'Anaïs Nin suit Anaïs, et c'est à Louveciennes, évidemment, que va se jouer la première partie de la vie d'Anaïs Nin avec la rencontre d'Henri Miller.
Et sa première réaction à la vie, à la culture parisienne, française, c'est le dégoût. Elle trouve que c'est animal, il y a une sorte de mince vernis de civilisation, mais en fait tout le monde est lascif et les femmes sont vulgaires, et elle est assez choquée par la littérature française parce qu'elle en lit, et donc elle se retire dans une sorte de timidité et elle essaie d'être la bonne petite épouse de son mari banquier. Mais au bout d'un moment, elle s'ennuie dans ce rôle et elle commence à faire deux choses. Elle s'inscrit à un cours de danse espagnole et puis elle s'intéresse à la littérature. Elle commence à travailler avec un monsieur qui s'appelle John Erskine. Et les deux vont l'aider à s'exprimer et à comprendre son corps de l'intérieur, à valoriser son corps. Elle va aller très loin.
Elle lit en effet « Women in Love ».
Femmes amoureuses.
Femmes amoureuses, c'est ça. Elle lit Femmes amoureuses. Il faut dire qu'à l'époque, D.H. Lawrence, c'est un auteur qui est banni, c'est un auteur qui est quand même assez sulfureux. Anaïs Nin, en le lisant, se rend compte de sa grande frustration. Parce qu'il faut quand même préciser que l'entente sexuelle d'Anaïs et de son mari est médiocre, si je puis dire. Alors, elle n'en parlera pas trop, elle en parlera dans ses journaux plus tard. Et quand elle lit D.H. Lawrence, soudain, l'auteur met des mots sur sa frustration. C'est vraiment une tornade. Et elle va décider d'écrire un essai sur D.H. Lawrence. Elle sent aussi que l'approche de D.H. Lawrence de l'amour est une approche assez mystique aussi. Hein. On est loin de la pornographie avec D.H. Lawrence. Hein. C'est plutôt un panthéisme amoureux. C'est très très beau. Et ça, elle le ressent profondément. Donc elle écrit un essai qui sera publié sous le titre « Unprofessional Study ». Et ça va être publié à Paris chez Edouard Titus, qui était une figure de l'intelligentsia anglo-saxonne des années 20. Et elle va donc avoir son premier livre publié. Alors évidemment, publié pas à compte d'auteur, mais presque. Hein, mais ça va être très très important pour elle. On peut dire que D.H. Lawrence l'a éveillée à la littérature, mais sous l'angle justement de la littérature sensuelle, amoureuse et aussi très audacieuse. Ça, elle y plonge très très tôt grâce à D.H. Lawrence.
Louveciennes, le 9 mars 1932. Lettre à Henri Miller.
Je n'arrive pas à vous écrire, Henri. Bien que je sois restée éveillée toute la nuit pour vous parler, pour te parler de l'homme que j'ai découvert hier. L'homme que j'avais pressenti dès le premier instant. Toutes les montagnes de mots, de citations, de phrases se sont écroulées. Je ne vois plus que la splendeur aveuglante de votre chambre et ce moment irréel. Comment un moment peut-il être à la fois si irréel et si chaud? Si chaud. Vous savez maintenant que mon esprit n'est pas seul à vous comprendre. Vous comprendre de façon chaotique. Comment vous ai-je choisi? Je vous ai vu. De ce regard intensément sélectif, j'ai vu une bouche qui était à la fois intelligente, animale et douce. Curieux mélange. Un homme humain, avec une conscience sensuelle des choses. J'aime la conscience. Un homme. Je vous l'ai dit, que la vie enivrait. Je croyais être amoureuse de votre esprit et de votre génie. Je ne voulais pas de l'amour, parce qu'il signifie le chaos, parce qu'il fait vaciller l'esprit comme des lanternes sous le vent. Je voulais me montrer très forte devant vous. Je voulais être contre vous. Vous aimez tellement être contre tout. Moi, j'aime être pour. Moi, je choisis. J'aime. J'ai des bouffées d'amour qui m'étouffent la nuit, comme dans ce rêve que tu as essayé de rendre réel hier, de clouer dans ton baiser dévorant. J'aime le Créateur en vous également, celui qui enrichit la vie et lui donne une dimension incompréhensible pour les autres. On se pénètre, non par les sensations, mais par la pensée. Je me le demande.
C'est à Louisiane qu'elle rencontre Henri Miller au cours de l'année 31. Alors, elle le rencontre grâce à un avocat de la National City Bank, Richard Osborne, qui est donc ami avec Hugo Giller, mais qui est aussi un copain de beuverie de Henri Miller, qui l'héberge d'ailleurs dans sa garçonnière. Henri Miller est toujours fauché, il a toujours faim. Dès qu'on peut l'inviter quelque part, il saute sur l'occasion. Et Osborne lui dit, écoute, mon ami et collègue banquier, il aime beaucoup la littérature, il a une femme qui écrit, ça te plairait de la rencontrer. Et ça va le dîner va se faire dans les années 30. Alors vous allez me demander, est-ce que c'est un coup de foudre? Je n'étais pas là malheureusement pour vous l'assurer, mais d'après la correspondance, c'est évidemment d'abord un coup de foudre de tempérament, si je puis dire. Hugo était un homme mesuré en tout, charmant, charmeur, mais c'est pas le feu. Anaïs, c'est le feu. Miller, c'est aussi un feu. Ce sont deux feux qui vont se reconnaître. Et puis, on en arrive très vite à parler de l'essai de H. Lawrence que Miller a lu. Il faut imaginer Miller qui était un tempérament totalement enthousiaste. C'est ça, c'est le grand charme de Miller. C'était qu'il mettait de la fougue et de la chaleur en tout. Donc, le vin faisant, c'est un dîner extraordinaire. Extraordinaire. Et qui soudain tire Anaïs de sa léthargie, je dirais, conjugale. Et soudain, voilà, elle semble avoir trouvé, elle a trouvé en Miller un complice. Alors moi, il me semble qu'ils se sont plus écrits qu'ils n'ont fait l'amour hein, dans leur vie. Il faut dire que la première année en 1932, Miller lui envoie 900 lettres. Donc 900 lettres, ça fait presque 3 lettres par jour. Donc, c'est le 8 mars 32, dans une chambre de l'hôtel Central, 1 bis rue du Maine, qu'ils vont passer leur première nuit ensemble. Et elle dira donc un peu plus tard, en octobre, donc leur liaison a quelques mois, je cite Anaïs Nin, « L'étrange, c'est que seul ou ensemble, nous soyons si humains, si chaleureusement, si tendrement humains. Toutes ces heures dans la cuisine. » Alors que nous sommes si turbulents, si boursouflés, si fantomatiques, si fébriles, si monstrueux dans nos écrits. Gorgés d'érotisme et de chair. Mon style émaillé et ton style musclé, luttant corps à corps, se jetant mutuellement des étincelles. Donc on comprend très bien que ce n'est pas simplement un corps à corps physique, mais c'est aussi un corps à corps de deux tempéraments et de deux écrivains.
Jacques André, vous êtes psychanalyste. Est-ce que... parce qu'elle parle beaucoup de cette quête d'intensité. Mmh. Est-ce qu'elle va chercher des expériences très radicales pour avoir des choses à dire?
Je crois qu'il y a de ça, effectivement. Il y a, dans le fond, l'œuvre d'art d'Anaïs Nin, c'est la vie d'Anaïs Nin. C'est pour ça que le journal est son œuvre majeure, comme absolument remarquable, qui ne peut qu'intéresser les psychanalystes. Mais il est long, il faut le lire, bon, c'est un peu un pavé, mais ce n'est pas un pensum pour autant. Il y a une vie, une vivacité, une dynamique, une passion là-dedans qui est quand même assez extraordinaire, avec un sens de la formule quand même. Il y a un style, il y a une manière. Être un cosmos à moi toute seule, homme, femme, père, mère, maîtresse, enfant, tous les rôles, exténuant. Voilà, bon. Je crois que c'est faire vivre toutes les facettes possibles, toutes les aventures possibles, toutes les phases du désir possibles, accomplir tous les désirs. Bon, c'est le programme d'une vie. en tout cas de la sienne. Et on voit bien comment le journal en est le vecteur et le porteur. Bon, c'est quand même une femme, elle le dit elle-même, menacée par la folie, il y a une fissure en moi. Et que la folie est toujours possible, les allers-retours avec la folie sont toujours plus ou moins là. Bon, donc cette menace est là, cette présence est là, sa mélancolie, comme elle dit aussi, il y a quelque chose comme ça qui l'a. Sur l'autodestruction, bon, ce sont des choses auxquelles elle fait référence. C'est pour ça qu'elle est pilier d'équilibre. Hugues, le mari, Allende, dans une certaine mesure, bon. Mais toute sa vie est comme ça. Enfin, le journal de la trentaine, les 1300 pages de la trentaine, sont 10 ans passés au bord du gouffre, un petit peu, comme cela. Mais enjoués sur un mode esthétique, avec cette idée, dans le fond, que la vie, c'est ça. Autrement, elle s'ennuie.
Elle ne va plus jamais s'arrêter, donc ça fera plus de 60 ans, 60 années de journaux.
Elisabeth Barry.
Ça représente des dizaines et des dizaines de volumes qu'elle va conserver dans les coffres d'une banque à New York. Il y a une célèbre photo qui la représente, elle a à peu près 50 ans, entourée de ses journaux, dans les sous-sols de cette banque new-yorkaise. Et c'est même presque un peu effrayant, parce qu'on voit à quel point, en même temps, ces journaux ont été son mode d'expression et en même temps peut-être une citadelle ou une forteresse autour d'elle. Elle disait « il faut faire de sa vie une œuvre d'art ». Et c'est vrai que son dandysme et son soin extrême de l'esthétisme en tout va partout en effet. Elle se fabriquera très très tôt un visage. Dans le livre, je parle de masque kabuki parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, quand elle vieillira, il y aura quelque chose du masque, en effet, chez elle. Elle comprend l'importance du look, on dirait aujourd'hui. Donc, elle va accentuer, évidemment, ses origines exotiques. Elle va s'habiller un petit peu comme une danseuse de flamenco, parfois. Elle use beaucoup des tissus chatoyants. Et à Louvciennes, elle va peindre les murs, elle va peindre la cheminée. Elle en fait quelque chose de très, 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 très beau. Non, c'était vraiment la vision d'une esthète totale, je dirais.
26 septembre 1938. Au lieu d'écrire un livre, je m'allonge et je rêve et me parle à moi-même. Une drogue. Je quitte la réalité pour un monde réfracté. Je transforme en brouillard les événements les plus solides. La fièvre excitante, stimulante qui me tient éveillée et tendue toute la journée se dissout en improvisation, en contemplation, dans le plus parfait abandon. Je dois, chaque jour, alléger ma vie dans le rêve. Je vois dans les échos, les reflets, la transfiguration qui seule permet de conserver l'émerveillement. Sinon, toute magie est perdue et je m'éveille pour toucher les barreaux de la prison. Sinon, la banalité, les déformations, les limites s'incrustent dans chaque geste comme de la rouille. Ceci est mon journal et ma drogue. Enrobant toute chose dans une fumée fluide, transformant tout comme le fait la nuit. Toute matière doit être ainsi transfigurée par les lentilles de mon vice. Sinon, la rouille de l'existence réduira ma cadence à un sanglot.
Quelle est sa conception du rêve ?
Ce qui fait le propre un petit peu d'Anaïs Nin dans cette affaire, c'est qu'elle perçoit quand même tout le côté analytique des choses, c'est-à-dire le côté accomplissement de désir, que les rêves réalisent, même si c'est de façon énigmatique, cryptée, compliquée à saisir et à interpréter, mais qu'il y ait cette dimension d'accomplissement de désir. Et c'est de ça qu'elle fait sa règle et sa vie. Une vie rêvée, une vie de rêve. Bon. Si ce n'est qu'il n'y a pas de cauchemar dans cette affaire. Bon.
Oui, elle exclut tous les cauchemars.
Absolument.
Elle parle aussi du rêve créateur, donc qui lui donne des sortes d'images à partir desquelles elle crée.
Oui, oui. Et le rêve nous emporte, nous fait découvrir des autres, des endroits où on n'est jamais allé, connaître des gens qu'on n'a jamais connus, et invente des histoires auxquelles on n'aurait pas pensé une seconde. Bon, c'est-à-dire révèle une espèce de capacité créatrice que nous avons en nous, bien à notre insu, et très au-delà de nos propres moyens, si l'on peut dire. Donc il y a une espèce de séduction du rêve considérable, qui est, voilà, de quoi je suis capable, les œuvres dont je suis capable de produire, alors même que lorsque je suis conscient et éveillé, je suis loin du compte. Elle dit elle-même, d'ailleurs, qu'elle commence tous ses écrits quasiment par un rêve, une sorte de préambule. Elle est dans une époque aussi, parce que les années 30, c'est les années surréalistes. Et s'il y a bien un mouvement artistique qui a fait du rêve sa règle, c'est bien le surréalisme.
Bon, elle parle de Breton aussi, hein, Naïs Nin, dans son journal, mais elle en parle d'une curieuse manière. Elle va voir l'exposition surréaliste en 1937, elle l'invite à un dîner mondain, et c'est pas vraiment une grande réussite. Voilà ce qu'elle dit, et donc on est en 37. Rien à dire sur Breton, aucune musique, aucune étincelle en lui, il n'est qu'une tête. Et tête est écrit en majuscule. Et ensuite, un peu plus loin, elle dira « Je n'ai jamais pris le surréalisme au sérieux. La position de Breton à l'égard de la musique, la haine qu'il en a, sa surdité, suffit à trahir en lui le fabricant intellectuel, l'homme de laboratoire. » Bon, les influences, c'est toujours extrêmement compliqué d'un point de vue littéraire. Mais Anaïs Nin, elle a lu les symbolistes. Donc le mouvement qui vient à la fin du 19e siècle en poésie, qui accorde une très grande importance à la musique.
C'est et, Mallarmé.
C'est Verlaine, par exemple. Et cet attachement à la musique en poésie, ça peut être une forme de racine symboliste.
Et elle dit aussi... En un sens, mon écriture est surréaliste dans la mesure où elle cherche la superposition, où elle cherche à traduire les différents niveaux de l'expérience vécue. Donc, elle le critique, mais qu'est-ce qu'elle conserve de ce mouvement qui était un petit peu dans l'air du temps ?
Le surréalisme, c'est pas seulement une école littéraire. Enfin, c'est pas une école littéraire d'ailleurs, c'est un mouvement, plutôt une certaine conception de la vie et... où donc l'inconscient doit avoir sa part. Et dans cette perspective, l'écriture, c'est une pratique de vie. Et c'est aussi le cas pour Anaïs Nin. Quand elle écrit son journal, c'est pas simplement écrire pour faire une œuvre, même si elle va y venir, et même si elle va, à un moment donné, prendre conscience que son œuvre est sans doute plus dans son journal que dans les nouvelles ou dans les fictions qu'elle a pu écrire. Mais écrire, c'est avant tout une pratique dont elle ne peut pas se passer, quelque chose de l'ordre de l'addiction. Les métaphores de l'opium, de la drogue, sont souvent associées à l'écriture du journal.
Elle va aussi rencontrer la femme d'Henry Miller, June Miller.
C'est plutôt la rencontre de Narcisse. La rencontre de deux femmes très très conscientes de l'image qu'elles projettent. La rencontre de deux séductrices incapables de ne pas respirer sans séduire. Évidemment, elles vont se séduire mutuellement. Mais c'est plutôt superficiel. Ce sera une liaison saphique. Alors il faut dire que le saphisme, c'est dans l'air du temps. Hein, depuis que Nathalie Barnet, en 1900, s'est installée à Paris, ouvrant avec elle son salon... emmenant derrière elle des femmes comme René Vivien, Juna Barnes, toute cette merveilleuse armée des écrivains lesbiennes et poètes. C'est dans l'air du temps. June va lui ouvrir quelques lieux qu'Anaïs rêvait de voir, par exemple le Monocle, qui est un club de femmes. Donc elles vont évidemment se donner en spectacle, mais non, c'est superficiel comme l'est tout miroir.
Que représente le Paris des années 30 pour les artistes, les écrivains, notamment pour les écrivains et artistes anglophones, anglo-saxons ?
Alors, c'est effectivement un lieu de bouillonnement, bouillonnement intellectuel, bouillonnement créatif, avec certains pôles, en particulier le pôle de Montparnasse. Il y a une liberté sexuelle, il y a des lieux, des cafés où les lesbiennes peuvent se retrouver. Il y a donc Nathalie Barnet, hein, qui est un peu ce pôle important. Il y a aussi Gertrude Stein. Mais disons, le moment où elle fréquente tous ces milieux-là, le début des années 30, l'effervescence existe toujours, hein, certes, mais c'est un peu assombri, si l'on peut dire. Quand même, on rentre dans un contexte international plus compliqué et où la littérature elle-même va changer. Toutes ces années d'expérimentation, les années 20, de grandes fantaisies, etc., vont laisser place peu à peu à une littérature beaucoup plus engagée, qui s'interroge sur la condition humaine, qui a des soucis politiques. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'Anaïs Nin, elle est légèrement décalée. Bien sûr, elle fréquente beaucoup d'artistes étrangers, par exemple la sculptrice Shana Orloff, mais dans ses aspirations créatrices,
elle vient peut-être un peu après ce qui s'est déjà fait dans les années précédentes.
Ce qui m'a réellement sauvée de déséquilibre, c'est-à-dire quand on veut se donner à la vie, à toutes les expériences, on peut perdre son chemin, je dois beaucoup à la psychanalyse.
1969.
Je crois que j'aurais pu peut-être mentir au journal sans la psychanalyse, que chaque fois qu'il y avait une grande crise dans ma vie, je me retournais vers ça. Sans l'analyse, je crois que j'aurais pu peut-être, sans le vouloir, inconsciemment, faire un autre portrait. Céder à l'idée qu'on a, parce que dans celui-ci, je suis encore jeune et j'essaye encore d'embellir, mais dans les autres, je deviens beaucoup plus véridique encore, à mesure que moi-même, je m'approche des vérités. Mais je ne l'aurais pas fait, le journal même, je ne crois pas à l'auto-analyse. Je ne crois pas qu'on peut être franc si on a peur de certaines vérités.
On sent quelque chose qui est d'une extrême curiosité pour ce qu'elle appelle le Minotaure. Elle dit assez peu, elle prononce assez peu le mot inconscient, c'est bien de ça dont il s'agit, parce que c'est un monstre, quoi.
Jacques André.
Et un monstre dangereux. Mais en même temps, un monstre dangereux, passionnant, vivant, bon, extraordinaire, voilà. Donc c'est cela qu'elle cherche dans l'analyse. Elle ne cherche pas à résoudre l'angoisse et les symptômes, elle n'y va pas pour cela. Elle va voir Allendy. Allendy n'est pas n'importe qui, c'est un des fondateurs de la SPP, de la Société Psychanalytique de Paris. Le fait que ce soit un homme qui s'intéresse à l'astrologie, l'occultisme, et qui a un petit côté mystique, comme ça, n'est sans doute pas par hasard avec le fait qu'elle l'ait choisi. Elle est quand même beaucoup plus Jung que Freud. Il y a tout un côté mystique chez elle, et pourra se définir à un moment donné comme une sainte Thérèse de l'amour et de l'orgasme. Et elle séduit Allendy, qui a l'air d'être quand même plutôt un psychanalyste pépère, si je puis dire. Bon. C'est assez étonnant parce que on voit bien que c'est elle qui l'emporte. C'est, jusqu'à réduire Allendy à un certain ridicule. Je pense à la scène où il se retrouve au métro Cadet, lui avec son petit fouet parce qu'il adore la fessée. Bon, il est pathétique quoi, à ce moment-là, alors qu'elle est assez triomphante. Qu'Allendy, dans le transfert, il représentait le père, on s'en doute, bien entendu. Mais surtout, ce qui était assez saisissant, c'est que elle va, dans le fond, le conserver près d'elle pendant, au-delà de la vie amoureuse et sexuelle elle-même, comme un personnage d'équilibre et de tranquille. Il est un peu dans... Il ressemble à son mari à certains égards, le mari qu'elle ne quitte pas, qu'elle conserve, alors même qu'elle a de multiples amants. Hugues et Allendy, c'est des personnages d'équilibre. Et elle a besoin de points d'ancrage, de bon, il y a une telle folie, une telle fissure comme ça en elle-même, et une telle menace de morcellement, à laquelle elle est tout à fait sensible, qu'il faut que, par ailleurs que ça soit bien posé quelque part pour que tout cela tienne d'une manière ou d'une autre.
12 mars 1933, chez les Allendy. Artout, le visage de mes hallucinations. Les yeux hallucinés, les traits aigus creusés par la souffrance. Le rêveur homme, diabolique et innocent, fragile, nerveux, puissant. Dès que nos yeux se rencontrent, je suis plongée dans mon monde imaginaire. Il est véritablement hanté et il me hante. Je savais que j'allais rencontrer un frère en fantasme et en style. Je ne m'attendais pas à ce visage. Je suis le plus malade de tous les surréalistes. Il nous a lu le plan de sa pièce. Il est brisé, tremblant, décadent, encore un ardent décadent. L'opium, peut-être ? Comme ses yeux vont au-delà de ce qu'il regarde. Le visage ravagé, la méchanceté, la passion... La violence. J'étais hypnotisée.
Il croque des portraits, quoi. Je veux dire, que soit Allendy, que soit Rank, Henry Miller, bon, les pages où elle saisit un petit peu ses personnages, où elle les décrit, sont des pages très fortes. C'est les plus belles pages du journal. Il y a quelque chose, cette espèce de contact qu'elle a avec elle-même et les ténèbres d'elle-même, lui donne sur les ténèbres des autres. Il faut dire qu'elle rencontre des ténébreux. Henry Miller, c'est quand même pas mal non plus. Bon. Artaud est un des patients d'Allendy, alors elle se rencontre. Artaud, si on suit les propos du journal, désire avoir une relation amoureuse avec elle. Elle s'y refuse, alors qu'elle s'y refuse quand même très rarement. Bon, c'est pas son genre. Hein. Donc il y a là quelque chose. Artaud, dans la folie, c'est autre chose qu'Anaïs Nin. Bon, c'est autrement dangereux et périlleux. Artaud, il est tombé dans l'abîme. Bon. Artaud, il est interné. Il ne sera jamais interné.
C'est Alan Dee, un psychanalyste non orthodoxe, comme beaucoup de psychanalystes l'étaient à l'époque, qui lui suggère d'aller voir son père et d'aller, j'ai envie de dire, lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle va le séduire jusqu'à où, je ne sais rien. Le journal inédit que j'ai pu lire quand je suis allée à Los Angeles et que j'ai pu lire grâce à Rupert Paul ne parle pas de viol. Non, elle le séduit. Alors, l'inceste, de quoi parle-t-on quand on parle d'inceste ? Le père l'a photographié nu dans sa baignoire, comme objet de désir. Donc ça, c'est déjà un inceste, de toute façon, c'est évident. Il y a en effet une emprise. Maintenant, est-ce qu'il y a eu acte sexuel ? Est-ce qu'il y a eu pénétration d'Anaïs par son père ? Ce n'est pas avéré. Qu'il y ait une emprise incroyable ? Oui. Que cette emprise ait généré un amour fou ? Oui. Que cet amour fou l'empêche peut-être de se donner à d'autres hommes ? Peut-être oui. Toujours est-il qu'elle va voir son père. Oui, elle va faire la danse des sept voiles. En tout cas, dans ce qu'elle écrit, encore une fois, hein, ça ne va pas plus loin. Mais ce qui est intéressant dans le cas d'Anaïs, c'est qu'elle se ressaisit de son destin. De ce point de vue, ça me fait penser un peu à Christine Angot.
Elle va réussir à se séparer de son père.
Complètement. Mmh. Complètement.
Et ça marque aussi ce moment-là, la fin de la cure avec Allendy.
Oui.
Et elle va voir Otto Rank en novembre 1933. Comment se passe l'analyse avec lui pour Anaïs Nin ?
D'abord, Otto Rank, elle le connaît par ses écrits. Rank est un personnage un peu marginal. C'est un des proches de Freud pendant assez longtemps. Il écrit un livre, Le traumatisme de la naissance, en soulignant comme cela les racines de l'angoisse. De ce point de vue-là, l'accord avec Freud est complet. Le problème, c'est quand il veut essayer de tout expliquer, de tout ramener sous le chapeau du traumatisme de la naissance qui devient Deus ex machina, expliquant la totalité des fonctionnements et elle tout s'y ramène. Il y a aussi une part un peu de mystique, comme ça, chez Rank. C'est un homme qui écrit des textes forts, pas seulement celui-là, sur le donjon, sur le double. Elle aime Rank, elle est passionnée par Rank, bien avant de connaître Rank. Et puis voilà, elle l'emporte, elle le séduit. Le pauvre Rank va sortir en piteux état de cette affaire. S'il y en a un qui est morcelé à la fin, c'est beaucoup plus Rank qu'Anaïs Nin. Mais la définir comme pervers, c'est complètement à côté de la plaque. Bon, non pas qu'elle ne le soit pas aussi, mais la définir simplement comme ça perd complètement la complexité de cette femme, parce que la vie d'Anaïs Nin, c'est polymorphe, à une figure qui est quand même complètement absente et qu'elle chasse, mère. Être mère, jamais. Là, on a quelque chose qui est absent du journal. On est à peu près sûr qu'on tient là quelque chose d'essentiel d'elle. Bon, là, c'est trop les ténèbres, quand même. Pour moi, je crois que pour d'autres, le moment le plus violent, le plus dur et le plus insoutenable du journal, c'est cette scène d'avortement-accouchement, parce que le fœtus a 6 mois, donc on ne sait même plus si c'est un avortement ou un accouchement, c'est les deux à la fois. Et elle le dit, d'ailleurs, j'ai tué mon enfant. Là, il y a sans doute un horizon de quelque chose qui est... C'est la part du Minotaure tout à fait inacceptable, mère.
Et c'est un des textes les plus étonnants que j'ai lu de ma vie, le texte qui s'appelle Birth, naissance.
Nancy Houston.
Où elle parle à cette petite fille, c'est une cérémonie, elle vient à la clinique avec 3 des hommes de sa vie, y compris son mari. Et elle explique à l'enfant dans ce texte, en le tutoyant, pourquoi elle ne peut pas la laisser venir à la vie. Parce que un de ces hommes a besoin d'elle comme mère, l'autre, elle a besoin de lui comme père, donc il ne faudrait pas qu'il soit le père d'un autre, etc. Et bref, il n'y a pas de place dans sa vie pour quelqu'un qui aurait besoin d'un père et d'une mère. Et donc, elle préfère le supprimer.
Et alors, Rank lui demande de mettre de côté son journal pour pouvoir mieux écrire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Oui, ça, bon, elle obéit très peu de temps, hein. Bon, fort heureusement pour elle. Bon, il y perçoit peut-être une concurrence de l'analyse. La règle en analyse, c'est dit tout ce qui vous passe par la tête sans rien éviter, etc. Bon, c'est exactement ce qu'elle fait avec son journal. Donc, c'est peut-être comme s'il lui disait, mettez toute votre énergie dans l'analyse, pas dans le journal. Et là, il passe complètement à côté. Parce que la plus forte création de Anaïs Nin est indiscutablement son journal. Bon, bien sûr qu'il y a une espèce de folie de ce journal à certains égards, mais aussi un équilibre. Aussi fou soit-il, mais la folie est dite, elle est écrite. C'est pas la même chose. Une fois qu'elle est dite, au lieu de rester entre soi et soi dans le labyrinthe, bon, il y a quelque chose au contraire, c'est le fil d'Ariane. C'est une élaboration, C'est quand même très écrit, le jeu. C'est un journal très écrit. C'est pas... Ce qui est saisissant, c'est qu'il n'y a quasiment aucun détail de la quotidienneté, par exemple. La vie de tous les jours, qui souvent charge et surcharge les journaux des uns et des autres, aussi brillants soient-ils, rien de la vie de tous les jours. L'ordinaire, c'est le vulgaire.
Si j'étais une vraie diariste comme Amiel ou Pips, je me satisferais du journal. Mais ce n'est pas le cas. J'ai envie de remplir les blancs, de transformer, de développer, d'approfondir. Je désire cet épanouissement ultime que procure la création. En relisant mon journal, je suis consciente de tout ce que j'ai omis et qui ne peut être exprimé que par la fiction, en creusant, en amplifiant.
Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est une sorte de poétique, hein, de discours de la méthode de son propre journal qu'elle donne.
Françoise Simonet-Tenon.
Alors en fait, elle copie son journal, elle dactylographie son journal et quand elle dactylographie son journal, elle fait des modifications qui sont parfois conséquentes, hein, selon donc Simon Dubois-Bouchereau qui a vu les manuscrits. Et où la question se complique encore, c'est qu'elle recopie son journal pour le prêter, hein, pour le prêter à ses compagnons, hein, pour le prêter au traducteur-éditeur qui va peut-être éditer son journal. Ce qui fait qu'on a de multiples versions du journal. Disons qu'il y a des authenticités successives, mais tout ça est retravaillé et donne lieu à une sorte de collage. On voit aussi la construction d'une créatrice. D'abord, ses expérimentations d'écriture, hein, ses conversations intellectuelles avec Miller dans la rencontre. Et puis, elle va construire des petites maisons d'édition artisanale où elle va imprimer elle-même ses textes. Donc, on voit bien quand même cette femme qui est, ben, au départ, une femme qui vit sur l'argent de son mari. Hein, en tout cas, dans les années 20, c'est ça. On voit bien comment, peu à peu, elle essaie de gagner une forme d'indépendance en devenant psychanalyste, hein, auto-rank, lui faire nourrir une clientèle, hein, en particulier donc en 35, là, quand il séjourne 6 mois à New York. Et puis par l'écriture elle-même, hein, cette écriture qu'elle va essayer de publier aussi pour acquérir au moins une sorte d'indépendance financière, bon, qu'elle n'aura que tardivement, hein, puisque... Le succès d'Anaïs Nin, il vient relativement tard, mais enfin, il finira par arriver. Donc, on a bien quand même un itinéraire d'émancipation.
Dans les années 50, il y a quand même aussi très vite la rencontre avec Rupert Paul.
Elisabeth Barry.
Qui va lui redonner confiance en sa personne. Et donc, avec Rupert Paul, elle va commencer à se scinder en deux. Alors ça, c'est la fameuse... Moi, ce qui me fascinait quand j'étais plus jeune, c'était qu'elle avait deux maris, elle vivait dans deux endroits différents, quoi. Donc elle vivait et à New York avec Hugo et à Los Angeles avec Rupert. Et elle passait quelques mois avec l'un, quelques mois avec l'autre, avec l'assentiment d'Hugo. Et ce sera en toute connaissance de cause et en toute bienveillance qu'ils auront leur vie sexuelle et amoureuse séparée, si je peux dire.
Donc, Rupert Paul est un acteur américain plus jeune, c'est ça ?
Oui. Il ressemble assez à Ronald Reagan quand il était jeune. C'est vraiment le portrait craché de Ronald Reagan. C'est pas du tout un intellectuel. Mais il va lui faire découvrir toute une partie de l'Amérique. Alors, lui, quand il se rend compte, il dit « Comment tu ne connais que New York ? » Mais New York, c'est pas l'Amérique. Enfin, c'est pas possible de ne pas... Il va lui faire découvrir un peu le pays. Donc ça, c'est formidable.
C'est en 1966 qu'elle publie le premier tome de son journal. Mmh. Comment est reçu ce journal ?
On peut parler de Kairos, c'est-à-dire que le journal sort à une époque où la libération de la femme en Amérique commence, il y a les premières révoltes étudiantes, les agitations des campus de Berkeley. Donc il y a tout ça qui fait que ça favorise évidemment l'émergence d'une nouvelle voie.
C'est... Une écriture aussi très très libérée tout de même de la physiologie de la femme. C'est pour ça qu'elle va devenir de façon un peu biaisée d'ailleurs, hein, une forme d'icône du féminisme, hein, en tout cas dans certains milieux de la jeunesse américaine. C'est aussi par exemple une diariste qui parle librement de ses règles.
Bah, c'est pas si fréquent à cette époque-là. Elle parle du sang rouge.
Elle va se couler à merveille dans le rôle que vont lui tendre les jeunes féministes américaines, qui est celui de la muse du mouvement, qui est de l'icône. Donc, elle déclenchera aussi des vocations d'écriture. Et ça, cette partie-là de sa vie, enfin, l'accomplissement.
Axelle Jeanne Giquet, vous êtes autrice et vous avez notamment écrit « Journal intime d'une féministe noire ». Comment avez-vous découvert l'œuvre d'Anaïs Nin ?
Vénus Erotica était à la bibliothèque et je l'ai empruntée. Et j'ai aimé d'emblée en fait son écriture, son approche extrêmement charnelle du désir. Et c'est devenu un ouvrage phare de mon existence. Et il est toujours aujourd'hui, et c'est surtout un ouvrage précieux parce qu'il a contribué à la construction de mon imaginaire érotique. Pour les auditrices, j'ai fait mon entrée dans la sexualité de manière violente. J'ai été violée quand j'avais 11 ans. Et comme j'étais une petite fille qui était un rat de bibliothèque, j'ai eu l'intuition qu'il y avait probablement dans les livres une réponse, en tout cas quelque chose qui allait me permettre de trouver une raison ou une explication, ou que ce soit verbalisé, puisque dans la maison personne n'a rien verbalisé de ce qui s'était produit. Et c'est par le biais des livres en fait que j'ai pu me reconstruire un imaginaire érotique et surtout faire la part des choses entre ce qui m'avait été fait et ce que le sexe pouvait être, et ça m'a servi à ça, notamment Vénus Erotica, oui.
Et ces écrits érotiques qui feront quand même sa célébrité, en tout cas en Europe, c'est une commande en fait, c'était un érotomane, un collectionneur d'écrits érotiques qui vit à Paris, je ne sais pas s'il était parisien ou américain, mais en tout cas qui demandait à des auteurs de lui écrire des contes érotiques. Miller s'y était essayé, et Miller dit à Anaïs, mais écoute, tu ne veux pas essayer. Et c'est ainsi que ces fameux contes, Vénus Erotica, Les Petits Oiseaux, en fait, ce sont des écrits de commande au début.
Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière dont elle se réappropriait la commande. Et je ne suis pas sûre que le collectionneur, c'est exactement ce qu'il s'attendait à lire. Il y a beaucoup d'elle dedans.
Oui, parce qu'il me semble que le collectionneur, lui, a demandé quelque chose de plus explicite, ouais. Et qu'elle, elle a refusé ça.
Elle a refusé, et ça se voit, ça se lit. Lui, il pensait qu'elle allait lui livrer quelque chose de pornographique, du même ordre que l'écriture de Miller, en fait. Je pense que c'est ça qui commandait. Et c'est pas du tout ça, Vénus Erotica. Donc, voilà. Alors, je pense qu'à la fin de la journée, elle s'en sort, en fait. Elle retourne le truc. Et c'est la première à apporter cette écriture-là sur tout ce qui est le sexe et qui n'est pas que du sexe. Et il y a de la volupté. Et c'est juste pas celle que vous aviez imaginée. Et elle n'est pas logée qu'au niveau des organes génitaux, en fait. C'est ça un peu ce qu'elle pouvait reprocher, je pense notamment à Miller. C'est sur tout le corps, c'est toute la sensation.
Oui, elle a une liberté. Anaïs Nin avait peut-être, à mon sens, plus de liberté dans ses écrits que dans sa vie réelle. Pour moi, vouloir séduire à tout prix tout homme qui passe, c'est le contrat de la liberté. Dans ce sens, Anaïs Nin n'était pas libre. Elle n'a cessé, sa vie durant, de dépendre du regard des autres. Et en particulier du regard des hommes. Je pense qu'elle a fait 3 liftings. Bon, je n'applique pas un jugement moral, hein, pas du tout. Hein, mais ce qui est paradoxal, d'ailleurs c'était le titre de mon livre « Masqué sinus », ce qui est paradoxal, c'est qu'elle clame un idéal de vérité dans ses écrits, tout en évidemment refusant la vérité du vieillissement. Et puis tout en, vous avez tout à l'heure parlé de retravailler, elle retravaille ses journaux, en tout cas les premiers tomes qui passent. En effet, elle le retravaille énormément, jusqu'à inventer des faits ou à tordre les faits ou à les enjoliver d'une façon assez subtile, évidemment. Hein. Mais Anaïs Nin n'a jamais caché le fait qu'elle était a professional liar, une menteuse professionnelle. Il suffit d'un mensonge pour rendre la vie excitante. Et son journal l'est, évidemment. Je pense que c'était quelqu'un qui, c'était une femme qui avait tout le temps besoin d'être stimulée. Elle a participé à des expériences de LSD. C'était à l'époque, c'était assez à la mode, mais néanmoins, elle l'a quand même fait. Et puis, en effet, bon, elle avait bien conscience que plus elle rencontrait des gens, plus elle multipliait les expériences, et bien ça nourrissait évidemment son journal, qui est devenu, à partir des années 60, en effet, et le succès venant, le chantier principal de sa vie.
Elle tient en fait deux journaux différents, donc le rouge, le vrai, qu'elle montre à Hugo en disant qu'il s'agit de ses fantasmes. Donc elle montre à son mari le vrai en disant que c'est ses fantasmes. Et ensuite le vert, expurgé, elle lui montre en disant que c'est le vrai. Donc oui, elle écrit de façon irrépressible. Et quel en est le statut de la vérité? Je pense qu'elle est très consciente du fait que le sujet, le soi, est quelque chose de mouvant et de poreux à tout instant, que beaucoup de choses que nous vivons sont avalées par l'oubli. De toute façon, ça, c'est une chose qu'elle comprend très jeune déjà. Et donc, sachant cela, c'est presque libérateur de dire, bon, j'écris la version comme ci, comme ça, et qu'est-ce qui fait sens, et qu'est-ce qui est cohérent, et qu'est-ce qui est beau, et quelle est la différence entre la cohérence et la beauté.
J'ai cru toujours qu'il y avait un langage de la femme, et que la femme, en général, quand elle écrivait comme l'homme. Elle imitait l'homme.
1969.
Mais qu'il y avait un langage des émotions, des instincts, que D.H. Lawrence avait un peu essayé de saisir. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le journal.
Évidemment, on ne peut jamais dire le style féminin est caractérisé par ceci et le style masculin par cela. Et je pense que politiquement, c'était utile à un certain moment de travailler dans ce sens. De se dire qu'on allait défricher un nouveau terrain. Donc si ça l'a aidé, ça c'est presque un geste de solidarité. Si elle dit écriture féminine, c'est qu'elle pense aussi que d'autres femmes devraient y venir. Et c'est vrai que si tous les journalistes littéraires sont des hommes, tous les éditeurs sont des hommes, tous les propriétaires des maisons d'édition sont des hommes. Une femme qui débarque là-dedans a vraiment besoin de faire ses preuves. Elle peut être extrêmement intimidée. Et donc, de se créer un espace à part où on a la possibilité, la certitude de pouvoir travailler ensemble et publier ensemble, ça a été très, très utile politiquement.
Je pense que c'était une étape et que le but était, oui, d'accéder à un endroit où le genre ne serait plus le propos central. Elle était extrêmement consciente de notre androgynie initiale, du fait qu'on est porteur et du féminin et du masculin, et que l'idée, c'est d'harmoniser les deux dans les individus, et ensuite, à titre collectif, ça pourrait se refléter dans la société. Et je pense que oui, c'était une étape. Elle l'imaginait pas comme l'alpha et l'oméga, et c'était pas avec ça qu'on allait transformer le monde. C'était une contribution à la transformation du monde, mais c'était pas une fin en soi.
Axelle Jeanne Giquet, vous vous revendiquez d'un féminisme concret. Est-ce que vous pouvez le définir?
Je pense qu'on incarne le féminisme, que c'est pas juste une doctrine. Ça passe par vos actes, ça passe par vos engagements, et ça commence surtout dans l'intime, en fait. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, et pour moi, c'est pas l'inverse. C'est d'abord balayer devant votre porte, vous demander qui vous êtes. Et c'est ce que Nine appelait le fameux voyage intérieur. Voilà, c'est comme ça qu'elle le définissait. Et seulement à la faveur de ça, de ce travail que vous aurez fait sur vous-même, vous pouvez contribuer au collectif.
Est-ce que vous considérez qu'Anaïs Nin est une féministe?
Elle n'est pas peut-être une féministe au sens technique du terme, parce que ce n'est pas quelqu'un qui manifestait sa solidarité féminine en travaillant avec d'autres femmes ou en manifestant justement pour les droits des femmes. Et en même temps, par le courage et la puissance de ses comportements et de ses écrits, je pense qu'elle avait tout à fait envie que d'autres femmes puissent s'en inspirer et tirer des forces de ce qu'elle avait fait. Sinon, on n'écrit pas, sinon on vit pour soi, on ne publie pas.
5 avril 1924. Ici se termine mon cahier, le plus sincère de tous les livres. Un livre destiné à aucun œil humain, écrit sans la moindre ambition. Et parce qu'il est justement un reflet brut et non étudié de la vie elle-même, il sera peut-être la preuve concrète de toutes ces idées que j'essaie d'exprimer dans mes vrais livres. Que la vie n'est pas une, mais qu'elle change constamment. Qu'une personnalité n'a pas qu'une face, mais des milliers. Qu'elle change tout autant que changent ses pages. Qu'elle évolue autant que ses cahiers ont évolué. Avec toute la petitesse, l'inconstance, les accès de passion ou de rejet, les périodes d'intense activité ou de paresse indigne que reflètent ces cahiers. Avec le même égoïsme, les mêmes faiblesses, les mêmes peurs, les mêmes mystères. Tourne ces pages et vois si un même esprit les parcourt ou si des humeurs différentes ont chaque fois laissé la trace de leur passage sur une âme qui chante et qui pleure tour à tour et ne se reconnaît jamais vraiment dans cette confusion.
Quand j'ai été chez Rupert Paul, dans cette maison qu'ils ont partagée, il y avait des photos. Alors d'abord, ce qui était très étrange, c'était que la maison n'avait pas bougé depuis la mort d'Anaïs Nin en 77. C'était en 92, donc il y avait une couche de poussière sur tous les objets qu'elle avait touchés. C'était assez gloomy, comme on dirait. C'était assez spooky. Ça faisait un peu peur. Mais il y avait des photos d'elle un peu partout, et des photos, particulièrement des photos d'elle parmi les étudiants. Et c'était très beau parce qu'il y avait des photos de la maison dans laquelle j'étais avec Anaïs Nin, dans ses merveilleuses robes indiennes, assise par terre avec les étudiants, les jeunes femmes et les jeunes gens aux cheveux longs, enfin toute l'époque Flower Power. Que regrettent ceux qui n'ont pas vécu, sûrement. Et ça, c'était merveilleux. C'était une oratrice née. Elle s'exprimait très, très bien. Elle était le charme même, la gentillesse même. Il faut écouter les archives sonores. On voit qu'elle aime, elle aime parler. Donc, je pense qu'au-delà du journal, elle avait aussi une aura indéniable.
Anaïs Nin, écrire sa vie comme un mythe. Avec Elisabeth Barillet, Nancy Houston, Jacques André, Françoise Simonet-Tenant et Axel Jeanne Jiquet. Texte lu par Déa Liane. Prise de son, Laurent César, Manon Houssin, Jean-Benoît Tétu, Cédric Châtelus, Jean-Baptiste et Tchéparbord. Mixage, Delphine Baudet. Archivina, Samia Jedaï. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Manon Delasselle, réalisé par Anne Fleury. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you.